Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 11. Je reçois Élise, qui a lancé l'association Hibou pour aider les gens à passer à l'action sur les questions écologiques et sociales via des expéditions dans la nature. On parle de sa prise de conscience suite à un tour du monde par voie terrestre et de ses choix personnels et professionnels qui ont fait suite. Bonne écoute. Bonjour Élise.
Bonjour.
Élise, tu as 35 ans et tu es diplômée de Sciences Po. Tu as travaillé dans le secteur de la communication et des relations publiques pendant presque 10 ans, avant de partir faire le tour du monde en 2017. En rentrant, tu as rejoint le programme On Purpose et depuis tu t'es lancée dans plusieurs aventures au sein de la transition écologique et solidaire. Tu peux nous raconter ton parcours ?
Oui. Moi, je viens d'un milieu semi-rural au nord de Lyon. J'ai deux sœurs, j'ai grandi avec mes cousins et mes cousines. Et à l'école, j'étais plutôt une bonne élève. J'étais assez intéressée par les sciences sociales, etc. Donc, j'ai fait un bac ES sans trop savoir pourquoi. Et quand est venue la question de l'orientation, pareil, j'étais un peu... C'était assez compliqué. J'avais pas du tout de connaissances des écoles, des prépas, etc. Du coup, je me suis orientée à la fac. J'ai fait une licence de sciences politiques parce que le sujet m'intéressait, mais vraiment sans dessin derrière. Et suite à un stage un peu par hasard dans les relations publiques, je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa. Faisons un master là-dedans. Et donc, j'ai intégré l'IEP d'Aix-en-Provence en master, en spécialisation sur le journalisme et les relations publiques. Et c'est comme ça que, suite à ce master, j'ai trouvé mon premier emploi dans une coopérative de services aux entreprises dans lequel je suis restée pendant 10 ans. Je suis rentrée dans cette entreprise à 22 ans et j'en suis sortie à 32 ans. Donc, une longue histoire avec cette boîte-là. J'ai fait plusieurs postes dans cette entreprise. Notamment, j'ai commencé comme attachée de presse, ensuite comme responsable des relations presse, ensuite j'ai changé un petit peu. Mais toujours dans le domaine de la communication et du lobbying. Et au bout de quelques années, un peu en fait à la barrière fatidique de la trentaine, où je me suis dit, bon, bah, ok, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? La réponse était un petit peu creuse, et là, j'ai eu envie de partir voyager. Donc, j'ai pris un congé sabbatique, c'était en 2017. J'ai pris un congé sabbatique pour aller voyager pendant 8 mois, toute seule, autour du monde. J'ai fait un tour du monde par voie terrestre, en solo. Donc, c'est vrai que ça m'a vraiment aidée à prendre du recul. Et quand je suis revenue dans cette entreprise où j'étais, que j'aimais bien, j'avais pas de problème avec cette boîte ou avec mon métier. Mais quand je suis revenue, très rapidement, j'avais changé de poste et j'étais sur un poste qui était censé être un petit peu idéal, puisque j'étais directrice éditoriale, donc je coordonnais des publications au niveau européen et international. Donc c'était vraiment quelque chose qui, c'était un poste vraiment un peu de rêve pour moi. Et tout de suite, au bout de 15 jours, je me suis rendu compte que ça allait pas être possible. Pas par rapport au poste ou à l'entreprise, mais par rapport à la mentalité des personnes que j'avais côtoyées pendant toutes ces années. Et là, quand je suis revenue de mon tour du monde, ça m'a paru extrêmement fermé, étriqué. Je me sentais à l'étroit, vraiment étouffant dans une cage, quoi. Et donc là, on commençait les problèmes, puisque je me suis rendu compte que j'allais devoir changer, mais J'étais un peu démunie puisque j'étais rentrée dans cette boîte très jeune. J'avais fait toute ma carrière ici, donc je savais pas trop par quoi commencer. J'ai commencé par écouter beaucoup de podcasts et lire pas mal de livres. Et de fil en aiguille, je suis tombée sur un coaching qui s'appelle Switch Collective, que j'ai fait en dehors de mon temps de travail et qui m'a permis vraiment de m'aider à concrétiser ce vers quoi je voulais aller dans ma carrière professionnelle, ce qui était important pour moi, comment je voulais travailler, avec qui je voulais travailler. Et suite à ce coaching, j'ai découvert le programme associé On Purpose. Et le programme associé On Purpose, c'est un an de transition de carrière. En fait, c'est un programme qui aide des professionnels à développer leur leadership au service des métiers à impact sociaux et environnementaux. Donc, j'ai postulé, j'ai intégré ce programme-là. Et donc, pendant un an, j'avais deux missions de 6 mois dans deux associations assez différentes et surtout des cours, du coaching, du mentorat pour m'aider à voir vers quoi je voulais aller dans mes pratiques professionnelles. Donc j'ai travaillé dans une première association, un think tank du monde associatif où j'ai travaillé sur les objectifs de développement durable. Et ensuite, j'ai aussi fait 6 mois chez Ferme d'Avenir, qui développe l'agroécologie et la permaculture, où j'ai pu mettre mes compétences de plaidoyer au service d'une cause qui était assez importante pour moi. Et donc cette année-là, que ce soit par ces missions ou par le coaching et les cours que j'ai eus, m'ont aidé à me rendre compte que c'était vraiment la question de la transition écologique et même de la transformation écologique qui était essentielle pour moi et de me réorienter là-dessus. Et du coup, suite à ce programme que j'ai terminé en 2019, je me suis lancée en tant que consultante indépendante sur les questions de transition écologique et sociale. Et donc, j'ai différentes missions. J'ai notamment créé une association de sensibilisation à l'écologie par la marche. Et par ailleurs, je suis également formatrice pour Equiwork, qui est une entreprise qui lutte contre le sexisme au travail. Donc, j'ai plusieurs missions parallèles et j'essaye à chaque fois que ces missions-là, elles aient un impact écologique et social le plus important possible. Voilà où j'en suis aujourd'hui.
Alors, c'est génial, c'est énormément d'informations et j'ai 1 milliard de questions qui me viennent à l'esprit. Je te propose de partir un petit peu au début, au moment où tu as eu cette idée de partir faire le tour du monde à pied, enfin, par voie terrestre. Puisque c'est pas commun quand même. qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi comprendre un petit peu quel était ton état d'esprit et en quoi tu t'es dit ça va m'apporter quelque chose?
Alors, rétrospectivement, je trouve que c'est marrant. Aujourd'hui, je suis vraiment dans la transition écologique, mais l'idée de faire le tour du monde à pied, c'était pas le motif principal n'était pas pour des raisons écologiques. C'était plutôt pour des raisons d'écologie intérieure et personnelle. En fait, j'ai vraiment ressenti le besoin de prendre un temps pour moi, de prendre du recul. Et pour ça, je me suis dit, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est faire tout le contraire de ce que je fais d'habitude. J'avais une vie sociale assez intense où j'étais tout le temps avec beaucoup d'amis, où j'habite à Paris, donc tout va très vite. Je sortais du travail tard, j'allais boire des coups, j'allais à une expo, je faisais 3 soirées dans une soirée. Enfin, j'étais toujours dans quelque chose d'assez intense et qui me plaisait beaucoup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'habite toujours à Paris et c'est quelque chose qui me plaît. Mais je me suis rendu compte que il fallait que je teste autre chose, que j'aille tester justement des choses auxquelles je ne suis pas habituée. Et naturellement m'est venue l'idée, si je veux faire différemment de ce que je fais d'habitude, il faudrait que j'aille doucement, que je prenne le temps, parce que je ne le fais jamais dans ma vie quotidienne. Et donc, la question du train, ou en tout cas de la voie terrestre, est venue un peu naturellement. Je me suis dit, pour aller doucement, en fait, il faudrait que je voyage par la route, contrairement à ce que je faisais avant d'habitude de prendre l'avion. Et me situant géographiquement en France, je me suis dit, je vais essayer d'aller le plus loin possible où on peut aller par la route, c'est-à-dire en Chine. Donc, je suis partie de chez moi avec uniquement un billet de train pour Moscou, en me disant, on verra bien ce qui se passe là-bas. Dans tous les cas, il se passera quelque chose. Et aussi, une de mes idées était justement de ne pas planifier, parce que j'avais l'habitude d'avoir un calendrier hyper carré, de tout planifier, de prévoir des dîners 3 mois à l'avance, etc. Et là, je me suis dit, je vais prendre 8 mois où je vais lentement et où chaque jour, je sais pas où je serai le lendemain. Et je faisais, durant ce voyage, j'étais principalement en couchsurfing, donc c'est un système d'hébergement gratuit entre particuliers. Donc, je dormais chez des personnes. Et du coup, à chaque fois, j'arrivais chez quelqu'un et il se passait quelque chose. Je racontais mon histoire et là, il y avait toujours quelque chose d'extraordinaire qui arrivait. Il me disait, ah oui, mais mon cousin, il habite dans telle ville et en plus, il y a une compétition internationale de ski demain, tu veux pas venir? Bien sûr que si, je veux venir. Pas de problème. Et du coup, c'est comme ça que j'ai constituer en fait ce voyage. En fait, quand je suis partie, je savais que je cherchais quelque chose qui était en dehors de mon quotidien. Je savais pas exactement ce que je cherchais. Je savais qu'il y avait une quête, mais je ne connaissais pas le but. Et donc, pour moi, pour répondre à cette quête, c'était la solution était de faire différemment de ce que je fais d'habitude. Donc, je suis allée jusqu'en Chine. J'ai passé pas mal de temps aussi dans des lieux un peu spirituel, des monastères, des villes saintes, etc., notamment en Inde, en Iran, en Mongolie, et ça m'a énormément ouvert, bien sûr, l'esprit, puisque se retrouver confronté à des situations de vie très très différentes des nôtres, ça ouvre toujours sur l'extérieur, mais j'ai l'impression que ça m'a aussi ouvert beaucoup sur l'intérieur, parce que j'avais pas beaucoup de confiance en moi en fait à ce moment-là, que ce soit dans ma vie privée ou professionnelle, et le fait de construire quelque chose, de pas me mettre dans les pas de quelqu'un d'autre, mais vraiment de construire mon chemin. Quand je suis rentrée, j'avais une confiance et une force que j'avais pas du tout au départ, et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de bouger professionnellement, puisque en rentrant je me suis dit, attends, si t'as été capable de soulever des montagnes pour obtenir des laissez-passer pour aller dans des zones interdites en Birmanie, tu vas pouvoir quand même trouver un job ou changer de job. Enfin, ça m'a vraiment ouvert à l'extérieur et à moi-même.
Et alors, une question qui est peut-être un petit peu bête comme ça, mais donc quand tu es arrivé plus ou moins à la fin de ton voyage, pourquoi est-ce que tu es rentré en fait? Parce qu'il y avait ce job qui t'attendait? Parce que c'était l'année sabbatique?
Ouais, j'avais un congé sabbatique de 8 mois, donc dans ma tête c'était très clair. Et puis par ailleurs, en fait, c'était quand même assez fatigant. D'être sur la route toute seule pendant assez longtemps, et j'avais vraiment c'est une des périodes les plus incroyables de ma vie, mais j'avais aussi envie de rentrer en fait, tout simplement de retrouver ma famille, mes amis, et puis même au niveau professionnel aussi, de me remettre dans un projet collectif. Là, ça faisait plusieurs mois qu'en fait, mon projet, c'était le voyage. Et donc, c'était un projet qui était très individuel. Et donc, j'avais envie de revenir à quelque chose de plus stable et de plus collectif.
D'accord. Et tout à l'heure, quand tu parlais de cette période où tu es revenu dans ton ancien job et que tu t'es senti à l'étroit, tu vois, ça marchait plus. Est-ce que tu as des exemples un petit peu, qu'est-ce qui marchait plus exactement? Tu disais que tu étais plus sur la même longueur d'onde avec tes collègues, mais ouais. Est-ce que tu pourrais l'expliquer?
Et ben justement, tu vois, durant mon voyage, j'étais tout le temps obligée d'inventer des solutions à des situations que je connaissais pas, et de trouver une façon possible d'aller à tel endroit, de trouver un logement, je te donne un exemple, en Mongolie, je voulais faire du bénévolat, je me suis inscrite pour tenir une guest house, je suis arrivée, on m'a dit bah non, en fait tu vas donner des cours d'anglais. J'ai trouvé une solution, etc. Il y avait toujours créé la possibilité, ou toujours trouvé une solution. Et quand je suis revenue dans ma boîte, c'était jamais possible. Dès qu'il y avait un problème, il n'y avait pas de solution. Les personnes avec qui je travaillais étaient dans une optique de rester dans des cadres bien définis, de suivre un process. Et dès que ça sortait un tout petit peu du cadre, l'idée même de trouver une solution dérangeait, en fait. Je voyais bien que je dérangeais ce qui était établi. Et donc, il y avait ce décalage de plus en plus grand entre mes collègues et moi. C'était même pas une question de hiérarchie, hein. C'était vraiment... moi, j'avais envie toujours de faire avancer, de trouver des solutions. Et je voyais que j'étais la seule, donc... Très rapidement, je me suis un peu épuisée, et je me suis rendu compte que c'était pas forcément souhaitable ni pour moi de m'épuiser, mais ni pour les personnes avec qui je travaillais. Je voyais bien que ce décalage, il était compliqué pour tout le monde. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts, de lire des livres, etc., et à réfléchir à mon environnement de travail, puisque pour moi mon travail, c'était mon poste, ma fiche descriptive de poste, le job, clairement. Voilà, tu fais ça, tu es attachée de presse ou tu es directrice éditoriale. Et qu'est-ce que tu fais dans ta journée, en gros? Et à ce moment-là, de par mes lectures, etc., je me suis rendu compte que l'environnement dans lequel j'étais ne me convenait plus. Et du coup, j'en suis venue à m'interroger sur quel type d'entreprise. À ce moment-là, je n'imaginais pas encore du tout être capable d'être indépendante, mais ne serait-ce qu'au sein des entreprises, quel type de conditions de travail. J'ai beaucoup lu aussi sur les différents types de management, comme les questions de management horizontal, les entreprises libérées, Frédéric Laloux, etc. Et ça, ça m'a énormément ouvert l'esprit aussi sur le fait que, quel que soit l'emploi, si je peux dire, que j'ai ou que j'aurai, les conditions dans lesquelles je vais l'exercer, c'est fondamental.
Oui, d'accord. C'est quelque chose que je comprends bien. J'ai eu un petit peu aussi le même chemin. Tu citais Frédéric Laloux et Reinventing Organizations. Ouais. C'est aussi quelque chose qui m'a fait un peu comprendre ça. C'est pas vraiment un métier que tu choisis ou un titre ou une position, mais vraiment presque des tâches et une manière de travailler en commun avec les autres.
Exactement.
Et donc après tes lectures, tu t'es nourri, et là tu as pris la décision de dire ok, je lâche le job. Tu t'es senti comment? T'as eu peur? Les gens t'ont dit quoi?
Il y a eu un long moment entre ma décision de quitter mon job et le moment où je l'ai fait, enfin quasiment un an. À partir du moment où je me suis rendu compte que ce serait plus possible de rester dans ce job. Mais j'étais quand même pas assez confiante en moi pour me dire, comme certaines personnes le font, allez, je quitte mon job et puis je verrai derrière ce qui se passe. J'ai attendu d'avoir quelque chose de concret derrière. Donc, j'ai lu, j'ai fait le coaching dont je te parlais, Switch Collectif, qui m'a pas mal aidé aussi sur justement comprendre les choses. Notamment travailler sur les questions des compétences transférables. Je me disais beaucoup, j'ai toujours été dans cette entreprise, donc ce sera difficile de sortir, etc. Donc vraiment prendre confiance dans le fait que je puisse apporter quelque chose ailleurs. Et c'est quand j'ai postulé au programme On Purpose, en fait, quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, mais c'est exactement là que je dois être. Vraiment, j'avais l'impression que c'était la première fois de ma vie. Et quand j'ai candidaté, j'ai fait mon dossier de candidature, je me disais, mais c'est la première fois de ma vie où je me dis, c'est là qu'il faut que je sois. Je me rappelle quand je passais des concours ou des entretiens, bon, je les passais parce qu'il fallait les passer, que ce soit pour Sciences Po ou que ce soit pour des jobs, mais j'étais pas intimement convaincue. Et là, je me disais, non, mais là, c'est ma place, elle est là. Et donc, c'est assez sélectif comme programme. Et quand on m'a appelée pour me dire que j'étais prise dans le programme, c'était vraiment le soulagement de me dire, enfin, je vais avoir quelque chose, je vais pouvoir faire quelque chose dans lequel je vais pouvoir respirer, pouvoir apporter, pouvoir être un peu plus libre. Donc c'était un mardi soir, j'étais hyper heureuse, super contente, et je me suis dit, bon, attends, réfléchis deux secondes, parce que là quand même, tu vas peut-être quitter un CDI super bien rémunéré pour des CDD pas très bien rémunérés dans l'ESS, donc l'économie sociale, dans le milieu associatif. Réfléchis deux secondes, peut-être que il y a trop d'effervescence, etc. Et parce que quand on m'a appelée, j'étais prête à donner ma dème, mais dans la minute, quoi. Donc j'ai pas fait. Je me suis dit, laisse passer la nuit. On n'est pas à 24 heures près, tu vas réfléchir. Et en fait, j'ai pas pu dormir de la nuit tellement j'étais excitée et heureuse et j'avais envie de sauter partout et de courir dans la rue pour crier mon bonheur. Donc du coup là, je me suis dit, ok, bon bah je crois que les signes sont assez clairs. Donc le lendemain matin à 8h, je suis arrivée dans ma boîte et j'ai vu mon chef et j'ai posé ma démission directe, vraiment sans aucune hésitation et sans aucun regret, quoi.
Et tu connaissais un petit peu l'économie sociale et solidaire avant ? C'est quelque chose qui t'avait intéressé ou c'est vraiment en voyant l'annonce On Purpose que tu as commencé à creuser et que tu t'es dit, ah ouais, en fait, c'est un truc qui m'intéresse ?
Alors, je connaissais un petit peu parce que la boîte dans laquelle j'étais était une coopérative, donc qui fait partie plus ou moins de la famille de l'économie sociale et solidaire. Mais moi, je ne le voyais pas du tout dans le concret de mon job. Mais donc c'était un domaine qui m'intéressait et par ailleurs j'ai ressenti que tout l'accompagnement que j'allais avoir pendant un an, c'était aussi ça qu'il me fallait. Peut-être j'avais regardé, en gros, depuis que j'étais rentrée en France, donc à peu près depuis, ça a duré à peu près un an cette période, je regardais pas mal de jobs et je me disais, ouais, je pourrais faire ça, mais je sens qu'il manquerait peut-être quelque chose. Et là, d'avoir la possibilité de faire deux missions différentes, donc déjà de voir deux choses différentes, pour moi qui avais toujours bossé dans la même boîte, c'était hyper intéressant. Et aussi d'avoir un accompagnement sur ce vers quoi je veux aller. Ça, pour moi, c'était essentiel parce que je sentais que c'était quelque chose dont j'avais besoin. Et qui m'a permis de grandir au final.
D'accord. Ouais, très, très, très clair. Et du coup, là, donc tu quittes ton job, tu dis, voilà, je démissionne. On te répond quoi ? Enfin, les gens cherchent à comprendre dans ton ancien job ? Ou les discussions, comment c'est apaisé ?
Ça dépend des personnes. Disons qu'il y a des personnes qui comprenaient le fait que je partais pour faire vraiment quelque chose de différent. Je partais pas faire le même job dans une autre boîte ou je partais pour un programme d'accompagnement pendant un an, etc. Donc, Donc, il y a des personnes qui l'ont très bien pris et d'ailleurs même qui étaient intéressées. Attends, c'est quoi ce programme et comment on postule, etc. Il y a eu un peu une vague de départ après moi dans mon ancien job parce que souvent, quand il y a des choses qui bougent, bah, ça en entraîne d'autres. Après, il y a d'autres personnes, d'autres collègues qui étaient, on va dire, un peu plus dans une vision classique du travail, souvent des collègues qui étaient un peu plus âgés et qui me demandaient « Ah bon, mais tu vas gagner moins, mais du coup, ça sert à quoi ? Attends, mais c'est même pas un CDI, mais vraiment… » qui comprenaient pas, quoi. Donc, bon, c'est comme ça, genre, j'ai pas essayé de les convaincre. Je pense que les personnes qui comprenaient que je partais pour faire quelque chose de vraiment différent était heureuse pour moi. Et puis j'ai aussi beaucoup de personnes qui m'ont dit « Bon, on comprend pas trop ce que tu fais, mais t'as l'air tellement heureuse que ça doit être bien.
» Génial. Et, ok, donc différents types de réactions. Et tes amis, ta famille, j'imagine, on te supporte à ce moment-là, disent « Ah ouais, putain, génial » ou pas du tout, enfin pareil, on te pose des questions par rapport à tout ça.
C'est pareil, j'avais des réactions différentes. Mes amis qui me connaissaient bien et qui connaissaient aussi mes convictions, mes engagements sociaux, environnementaux, ils ont tout à fait compris la démarche de bifurcation professionnelle. Et puis pareil, ils voyaient aussi que je transpirais le bonheur, donc c'est plus facile à comprendre. Après, j'ai eu des personnes de mon entourage et de ma famille qui comprenaient pas, notamment par exemple mon père, c'était très très compliqué pour lui de comprendre que il y avait vraiment cette notion de lâcher en fait une place qui est théoriquement très enviable, puisque j'étais donc dans un CDI très bien rémunéré, avec un poste intéressant dans une boîte que j'aimais bien en plus. J'étais pas du tout dans le cas, par exemple, des gens qui font un burn-out ou qui vont au travail la boule au ventre ou qui sont harcelés. Moi, j'étais plutôt bien en fait dans mon job. Et c'est ça qui, je pense, a été difficile à comprendre pour pas mal de personnes, c'est de me dire, bah, puisque t'es bien, pourquoi tu veux changer? Et donc, de quitter une place qui, théoriquement, dans le référentiel social qu'on nous apprend dans toute notre scolarité et dans la société, qui était un peu idéal, et de choisir de sortir de ce référentiel. Ça, c'était pas très clair pour beaucoup de personnes.
Oui, effectivement. C'est surtout quand on sait que la situation de l'emploi n'est pas forcément la plus facile pour tous.
Après aussi, il y a des réalités sociologiques. Moi, je viens d'un milieu assez modeste. Mes parents, ils n'ont pas fait d'études. J'étais la première génération à accéder aux études, à accéder au statut de cadre. Par exemple, pour mon père, le fait d'être cadre, c'était vraiment quelque chose. C'était un aboutissement professionnel. Le fait d'avoir un très bon salaire, c'était hyper valorisant. Et renoncer à ça, c'était difficile à comprendre parce que c'était une fin en soi pour lui, alors que pour moi, c'était pas du tout une fin en soi. C'était c'est super si je fais quelque chose qui m'éclate et en plus je gagne bien ma vie et je suis dans une position stable, très bien. Mais c'est pas un but en soi. Et du coup, j'ai eu vraiment cette difficulté à discuter de la place du travail dans la vie et dans la société et dans ma vie. C'était vraiment comme un changement radical de paradigme et de vision de la vie et du travail. Ça allait bien au-delà de d'un contrat de travail ou d'un CDI ou d'un CDD. C'était vraiment une question de vision qui était assez incompatible, en fait.
J'ai aussi vécu ça, je me souviens, sur un de mes premiers contrats de travail, mon père qui me disait « Bon, insiste surtout pour qu'il mette statut cadre
mmh. ». Ouais. Ce qui est... Et en même temps, je me souviens que moi, quand j'ai commencé, juste après mes études, j'étais vraiment là-dedans. Parce que aussi, c'est ce qu'on m'avait transmis. Mais par exemple, je me rappelais que juste après mes études, mon but, c'était d'avoir un CDI. Vraiment, je me disais, je peux pas prendre telle option quand j'étais en master, parce que derrière, c'est tel type de job et c'est que des CDD. Et moi, il me faut un CDI. Enfin, j'étais, je comprends tout à fait parce que j'étais dans cette optique-là. Et je pense aussi que le fait d'avoir été dans cette grande boîte, été en CDI, été cadre pendant des années, ça m'a permis de m'en libérer. C'est un petit peu comme quand tu fais du ballet classique et qu'en fait, au bout de 10 ans, tu te dis « Non, mais je veux faire du jazz ». C'est pas possible de faire tout de suite du jazz, en fait. Il faut te taper les 10 ans de ballet classique pour ensuite pouvoir vraiment faire un truc libre et beaucoup plus émancipateur. Moi, je me dis, si j'avais pas fait ces étapes-là dans ma carrière professionnelle, si j'avais pas eu la sécurité financière qui pour moi était hyper important, j'aurais pas pu choisir quelque chose de plus instable derrière. Donc, je suis pas du tout du genre à regretter ou à me dire « Ah, j'ai pas bougé pendant assez longtemps ». Je pense que c'était vraiment indispensable pour que je passe à quelque chose d'autre derrière.
Ouais, c'était hyper intéressant. C'est le fait d'avoir finalement un peu ce Graal. Et une fois que tu l'as, on t'a dit toute ta vie, c'est un peu cet aboutissement. Mmh. Et puis après, tu fais « Bon, bah, en fait, c'est pas terrible. Hein. »
Ouais, ouais, voilà quoi. Et puis il y avait aussi, moi j'ai commencé à travailler très jeune, enfin très jeune, à 22 ans j'avais mon premier CDI quoi. Et du coup je me disais, donc 10 ans plus tard, à 32 ans, je me disais, waouh, mais attends, il me reste encore genre 40 ans à bosser et je suis déjà un petit peu soi-disant au top. Donc qu'est-ce que je vais faire ensuite quoi? Qu'est-ce que je vais forcément m'ennuyer. Donc, j'avais le fait tu vois, la trajectoire linéaire qu'on m'avait présentée, bah, j'étais un peu au bout de la ligne. Et là, je me disais, bah, soit je reste là, c'était possible. Hein, je veux dire, dans ma boîte, il y avait plein de gens qui étaient là depuis 20 ans, 30 ans. Soit je pars de façon parallèle, voire de façon cyclique, parce que j'ai une vision beaucoup plus non linéaire, en fait, de la vie. Et voilà, c'était ce sortir de cette linéarité qui a été pour moi un moment un peu difficile parce que c'était pas simple à conceptualiser, mais très émancipateur.
Alors, tu dis que tu as une vision de la vie qui n'est pas linéaire. C'est un sujet que je trouve aussi hyper intéressant, mais qui est plus cyclique. Comment ça t'est venu? Comment est-ce que tu as changé cette façon de voir la vie?
Je pense que c'est de par pas mal de lectures, d'écoute, etc. C'est probablement aussi assez lié au sujet sur lesquels je travaille plus maintenant, lié à l'environnement, à l'écologie. En fait, quand tu regardes ce qui se passe en dehors des écosystèmes humains, donc dans les écosystèmes naturels, il n'y a pas de linéarité, il n'y a toujours que des écosystèmes qui sont soit par cycle, comme le cycle des saisons, soit de façon très circulaire en tout cas, et qui sont un peu en opposition avec ce que nous, les humains, on a construit, qui est assez carré, voilà, ou linéaire. Et en fait, les écosystèmes naturels, ils sont pas comme ça, et c'est beaucoup plus durable en fait. C'est beaucoup plus enrichissant et ça permet de pas épuiser les ressources. Et quand je dis ça, je pense effectivement aux ressources naturelles, mais aussi aux, ressources humaines dans le cadre de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a, par exemple, Lalou qu'on a déjà cité, mais il y a pas mal d'autres penseurs de l'entreprise libérée, comme Jérôme Gaetz, etc., qui réfléchissent sur ces questions de circularité, de management un peu plus cyclique et non linéaire, qui permettent de pas épuiser les ressources, mais de les régénérer. Et c'est aussi lié à la permaculture et au fait d'avoir un écosystème qui soit plus coopératif que exploitatif. Je ne sais pas si ce terme existe, mais en tout cas, qui soit plus dans la coopération que dans la confrontation.
C'est ce qui me permet de faire une transition parfaite, presque, avec tes deux expériences chez On Purpose. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu?
Ouais. Donc, ma première mission dans le programme associé On Purpose, c'était au sein d'un think tank du monde associatif qui s'appelle La Fonda, dans lequel j'ai développé un programme de sensibilisation aux objectifs du développement durable pour les responsables associatifs. Donc, c'était très éloigné de ce que je faisais auparavant, sur le fond comme sur la forme. Sur la forme, je me rappelle, c'était une toute petite association de 6 personnes, alors que moi, je bossais dans une boîte internationale de 3500 personnes, dans un gros bâtiment. Alors, c'était pas à la Défense, mais c'était tout comme, tu vois, les bureaux très hauts, avec des baies vitrées. Mon bureau, il était plus grand que mon appart. Et là, j'arrive dans une petite asso avec un petit bureau. Donc on était 6, dont moi, donc toute petite équipe. Il y avait des fiches de poste, mais quand même, tout le monde faisait un petit peu tout et tout. Et ça, ne serait-ce que ça, c'était hyper, hyper intéressant pour moi de me dire, ah ouais, on peut travailler de façon totalement différente, avec des... J'avais l'impression de tout réapprendre, en fait, quand je suis arrivée dans cet asso, parce que j'étais habituée à des choses très, très, très processées, très... On suit le macro-planning, on rentre dans des cases, etc. Là, c'était beaucoup plus freestyle. Et j'ai adoré, et j'ai aussi beaucoup adoré le fait d'être accompagnée par On Purpose pendant ce temps-là, parce que justement, de changer radicalement d'environnement, des fois, il y avait des choses qui étaient très déstabilisantes. Donc, moi, ça m'a beaucoup rassurée, en fait, d'avoir le backup d'On Purpose, de pouvoir en discuter soit avec mes camarades de promo, soit avec l'équipe, de pouvoir prendre du recul. Donc ça m'a beaucoup aidé à bien vivre ce changement assez radical de situation professionnelle. Par ailleurs, sur le fond, les objectifs de développement durable, j'en avais jamais entendu parler, je savais pas ce que c'était, et même sur ce que je faisais de développer un programme de sensibilisation, j'avais jamais fait ça non plus, donc tout était très différent. Mais là, pour le coup, tu vois, je t'ai dit tout à l'heure que je me sentais vraiment enfermée dans mon ancien job, et là, je me sentais très libre, parce que comme c'était une petite équipe, et ben en fait, ils étaient très très ouverts à plein de propositions, à ce que je faisais, à si je voulais faire autre chose même, donc. Ça, c'était radicalement nouveau pour moi de proposer quelque chose et qu'on me dise, bah ouais, vas-y, fais-le. Et moi, au début, je me disais, bah attends, faut pas que ça passe en comité, que je fasse une présentation, puis une deuxième présentation, puis une troisième présentation. Non, là, c'était open. Donc ça m'a montré une façon différente de travailler. Et ensuite, ma deuxième mission chez Ferme d'Avenir, donc là aussi, j'étais dans ce contexte un petit peu d'une petite association où l'initiative était très valorisée. Ça, c'était top. Et sur les sujets agroécologiques, donc auxquels j'étais déjà sensible, mais que je connaissais pas vraiment en profondeur. Là, la plupart de mes collègues, c'était des ingénieurs agronomes qui vivaient la moitié du temps, on allait sur des fermes agroécologiques, on rencontrait des partenaires, des élus, d'autres associations de riverains, etc. Et là, ça m'a aussi ouvert à tout un monde que je connaissais moins. Et c'était vraiment transformateur, que ce soit sur le fond, sur les sujets sur lesquels je travaillais, et aussi sur la forme, comment je travaillais, avec qui je travaillais, dans quel cadre je travaillais. Ça m'a vraiment non seulement montré un monde totalement différent, mais aussi fait comprendre que je pouvais y être, que j'étais capable de changer de monde, de milieu professionnel, de m'adapter, de faire des choses que je faisais pas du tout avant. Et en gros, ces deux expériences, au-delà du fait en soi d'être hyper intéressantes, c'est vraiment que je me suis dit, ah bon, bah si je suis capable d'aller dans des situations et des missions aussi radicalement différentes, bah je suis capable de choisir en fait vraiment, enfin, le champ des possibles s'est vraiment énormément élargi dans ma tête. Et donc, c'est aussi suite à ça que j'ai choisi de devenir indépendante, parce qu'au début du programme On Purpose, en fait, j'étais vraiment dans l'optique de me dire, bon, tu fais ce programme, ça dure un an, mais à la fin, il faut vraiment que t'aies décidé. Il faut arrêter de se poser des questions, quoi. Tu te laisses un an, c'était un peu un an de réinvestissement, un peu comme si je reprenais des études, quoi. Et je me suis dit, voilà, je me laisse un an et à la fin, il faut que je trouve le job où là, je serai bien et où je resterai. Il faut pas que j'aie re-envie de changer dans deux ans, quoi. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure de ces expériences et du coaching, du mentorat, de l'apprentissage que je faisais par les cours, tout ce qui est inclus dans le programme associé, je me suis rendu compte que ben non, en fait, je trouverais pas la réponse, intégrale à la fin de l'année, mais que je trouverais les outils qui me permettent de me poser les bonnes questions pour trouver la réponse qui est la bonne réponse à un instant T. Et l'idée de devenir indépendante, pour moi, elle a germé au fur et à mesure de l'année. Parce que je me suis rendu compte que c'était mon besoin de liberté, il était assez important, et que je pouvais me permettre d'être indépendante, donc que ça m'intéressait de le tester. Mais je me dis pas, ça y est, j'ai trouvé le truc forever. Je me dis, pour l'instant, c'est ce que j'aime bien et ça me convient très bien. Mais peut-être que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurai d'autres paramètres dans ma vie ou dans mes envies qui me feront rechanger. Et c'est pas grave, parce que j'ai les bons outils pour me poser les bonnes questions et pour savoir là où je serai le mieux pour moi et pour les autres.
Et dans ce statut d'indépendante aujourd'hui, qui te plaît, qu'est-ce qui fait que tu préfères être indépendante à, par exemple, travailler chez Ferme d'Avenir ou être salarié dans une start-up ou dans une autre entreprise? Qu'est-ce qu'est cette liberté dont tu parles, en quoi tu peux la vivre pleinement dans ton statut d'indépendante, et qu'est-ce que ça t'apporte d'autre?
Ça m'apporte de pouvoir varier les sujets. Comme je te disais, là, pour l'instant, j'ai deux principales missions, une sur le sexisme et une sur la sensibilisation à l'écologie. Donc, qui sont des sujets qui pour moi sont très connexes, parce que ça reste, je fais de l'accompagnement en fait à la transformation, donc à la transformation des perceptions et des systèmes en fait qui sont un peu oppressants sur les questions de sexisme, et aussi des systèmes qui sont oppressants. Pour moi, il y a la même matrice qui est derrière sur les questions d'écologie, mais c'est des choses qui sont assez différentes et que je peux mener en même temps dans grâce à mon statut d'indépendante, sur la forme aussi. Dans le projet Hibou, c'est un format associatif dans lequel je développe l'association et en parallèle j'accompagne des personnes dans des expéditions en forêt, donc je suis en contact avec la nature, donc c'est assez particulier. Avec Equiwork, sur les questions de sexisme au travail, j'interviens dans des grands groupes, donc je reste aussi en contact avec un milieu professionnel classique, où je vais être dans un milieu qui est plus proche du milieu dans lequel j'évoluais avant. Donc la façon dont je le fais est aussi différente. Et aujourd'hui, c'est cette diversité qui m'apporte beaucoup, qui me plaît. Mais encore une fois, peut-être que demain, cette diversité, elle me fatiguera et que j'aurai envie de prendre un job salarié dans une entreprise ou une association qui œuvre pour une cause qui est importante à mes yeux. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en fait, au-delà du statut, j'ai plutôt l'impression de construire mon parcours, d'aller vers mes objectifs qui sont d'accompagner les transformations écologique et sociale que je trouve fondamentale. Et dans cet objectif-là, viennent se mettre des briques. C'est un objectif qui est personnel et dedans, je vais mettre la brique Hibou, la brique Equiwork, une autre brique derrière parce que j'ai un autre client, etc. J'ai l'impression, voilà, d'avoir mon parcours et que des choses viennent le nourrir. Alors qu'auparavant, j'avais plutôt l'impression de devoir, moi, rentrer dans le projet de quelqu'un d'autre, d'une autre entreprise, d'une autre personne, etc. J'avais l'impression de devoir prendre une forme qui n'était pas naturelle pour moi pour rentrer dans quelque chose. Alors que là, c'est plutôt, je vais dans une direction et je me nourris d'éléments qui viennent accompagner, qui viennent dans cet objectif que je me suis fixé.
J'aime beaucoup la manière dont tu expliques ça et c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, hein, qui est celui du rapport au travail et qui a été très frustrant pour moi pendant des années parce que pareil, avoir un seul travail, une activité, 8 à 10 heures par jour, voire plus, c'est pas quelque chose qui me parlait beaucoup. Et j'ai appris un nouveau terme récemment, alors ça fait un peu vieux pourtant, j'ai que 33 ans, hein, mais qui est celui de slasher. Alors je sais pas si tu as voilà, déjà entendu ce mot qui veut dire avoir plusieurs activités, justement. Oui. Et c'est vrai que je trouve que c'est un peu un non-sens, pour moi en tout cas, et je pense pour beaucoup de gens, et tu l'exprimes très bien, de dire en fait il faut s'intégrer dans un seul et même projet. Et ensuite, avec le temps qui nous reste à côté, construire nos petits bouts de projets personnels.
Ben, tu vois, si je reprends l'analogie avec l'écologie, qui, encore une fois, pour moi, n'est pas que liée à l'environnement, mais qui est aussi humaine et naturelle. Dans la nature, il n'y a aucun animal, aucune plante qui va chercher ses ressources que d'une seule manière. Les plantes, elles vont chercher des oligo-éléments dans le sol, faire la photosynthèse avec le soleil, chercher de l'oxygène. Les animaux, c'est pareil. Et même les humains, en fait, c'est assez récent dans l'histoire qu'on se concentre sur une seule tâche, une seule chose, une seule mission qui soit valorisée par la société. En fait, naturellement, les écosystèmes, ils se nourrissent et ils nourrissent de plusieurs façons. Et ça me paraît maintenant, à moi personnellement, beaucoup plus écologique intérieurement de fonctionner de cette manière. Et par ailleurs, tu as tout à fait raison par rapport à ce que... Enfin, en tout cas, je me retrouve dans ce que tu dis sur le fait que... dans le schéma classique, on a notre travail qu'on fait 10, voire 12 heures par jour. Et à côté, on a nos projets. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle beaucoup de conciliation, vie privée, vie professionnelle, avec cette séparation assez stricte des cercles, le cercle privé, le cercle pro, le cercle des amis, le cercle de la famille. aujourd'hui, moi, je le vis plus du tout comme ça, alors que c'était ce que je faisais avant. J'avais mon travail et à côté, j'avais ma famille ou mes amis ou mes projets. Aujourd'hui, je vis les choses de façon beaucoup plus holistique, dans le sens où je vois plus, j'ai plein d'aspects de ma vie. J'ai des aspects professionnels, j'ai des aspects qui sont un petit peu, je ne saurais pas qualifier, par exemple, au sein de l'association Hibou, je suis cofondatrice de l'association, je suis présidente, je travaille pour cette association. Il y a des choses qui sont rémunérées, des choses qui sont pas rémunérées. Et tu vois, je pourrais pas remettre dans les cases que j'ai réussi à casser. Je vais avoir des actions qui sont plus militantes, d'autres qui sont, par exemple, quand je vais sensibiliser au sexisme au travail, c'est une action rémunérée, mais c'est aussi en même temps un peu un geste militant. Et je vais pouvoir avoir ces projets complémentaires avec des personnes qui sont complémentaires et au final faire une équation en fait entre le temps que ça me prend, l'argent que ça me rapporte parce qu'il faut quand même aussi pouvoir payer son loyer, etc. et pouvoir faire des arbitrages en fonction de les personnes avec qui je travaille. Est-ce que aujourd'hui, ça c'est une question qui est hyper importante pour moi. De me dire, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne? Est-ce que c'est une personne qui dans laquelle, par exemple, je crois ou qui m'inspire confiance, etc. Alors que, comme je te le disais, auparavant, j'étais très fiche de poste, une mission, c'est une action. Maintenant, je vois les choses de façon beaucoup plus holistique pour moi et pour l'environnement dans lequel je suis.
Oui, c'est ça me, quand tu parlais de choisir les personnes avec qui on travaille, ça me fait penser aussi dans mon ancienne activité, j'avais une agence de marketing pour les jeux vidéo. Et une des premières étapes vers un petit peu ce changement de travail et d'activité, ça a été aussi de choisir les gens pour qui on travaillait.
Ouais.
Et en fait, très rapidement, on s'est surtout rendu compte qu'on n'avait pas envie de travailler pour grand monde. Et du coup, ça mettait en fait un peu en péril la raison d'être de l'entreprise. Mais puisque je trouve qu'il y a quelque chose quand même de très cynique, que ce soit en étant salarié, que ce soit en étant patron d'une entreprise, à en fait accepter de se compromettre, on va dire, personnellement, par son activité professionnelle, juste parce que c'est le monde du travail. Bon, après, ouais. Voilà, ça n'engage que moi, mais...
Bah, non, mais je te rejoins dans le sens où, des fois, on a tendance à... Enfin, moi, je sais que j'avais tendance à pas faire cette délimitation sous prétexte que c'est le monde du travail et que, du coup, la personne ou l'entreprise paye pour une mission. Il n'y a pas d'autres critères, alors qu'en fait, si, il y a d'autres critères. Effectivement, le fait d'avoir un échange marchand est un critère, mais c'est pas le seul. Et aujourd'hui, moi, j'essaye effectivement de travailler avec des personnes, idéalement, qui vraiment m'inspirent, mais qui au moins sont alignées. Et en fait, je me rends compte que quand je travaille avec des personnes ou pour des organisations comme ça, bon bah d'une part c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus clair, je me sens beaucoup plus à l'aise et du coup je me sens beaucoup plus efficace et performante aussi parce que j'ai pas l'impression de devoir jouer un rôle ou rentrer dans des choses qui me correspondraient pas, donc c'est plus simple pour moi, donc je suis plus efficace, mais aussi derrière je me rends compte que c'est plus sur le long terme en bossant avec des personnes avec lesquelles je suis alignée, je rencontre d'autres personnes qui sont dans cette optique-là. Et ouais, sur le long terme, je trouve que c'est plus fructueux, en fait. Pour moi, on a des fois tendance à opposer le fait d'être rémunéré, avec tout le reste. Alors qu'en fait, pour moi, c'est un des paramètres qui rentre dans la balance. Et on peut pas non plus l'occulter. Je veux dire, on peut pas faire que du philanthropique. Enfin, peut-être qu'il y en a qui peuvent se le permettre, moi pas. Mais en tout cas, c'est un paramètre. Et donc, c'est un paramètre qui a sa valeur et puis qui a aussi une valeur qui évolue. Il y a des fois où forcément, je vais avoir plus besoin de rémunération. Donc, ce paramètre-là, il va être plus important dans la balance. Et puis, des fois où il y a un projet qui va vraiment me botter et du coup, je vais me dire, bah, je vais accepter une rémunération moindre parce que je peux me permettre de baisser le poids de ce paramètre dans la balance globale. Mais ce n'est pas une balance qui est spécifique à une mission ou à un job. C'est une balance que je vois dans ma vie en général.
Je comprends très bien. Alors, tu m'emmènes là sur des sujets qui me passionnent. Du coup, on part un petit peu dans...
Oui, sur pardon.
Non, mais t'as complètement raison. C'est passionnant parce que, pareil, sur le côté de la rémunération, qui pour moi est la... Enfin, côté quelle valeur on accorde au travail, il y a un rapport où, finalement, pendant longtemps, on a tendance à donner une valeur à des choses qui sont néfastes pour l'environnement, pour la société, alors que c'est ce qui est censé coûter le plus cher. Enfin, c'est la manière dont on s'en rend compte là avec la période Covid, c'est très marrant. Ouais. On sous-paye les gens qui sont censés nous soigner, on sous-paye et on laisse suicider des gens qui sont censés nous nourrir. Et à côté de ça, des gens qui favorisent la fuite des capitaux ou l'accélération du changement climatique, qui sont les gens qu'on rémunère énormément. Donc, il y a quelque chose de pas très cohérent par rapport à ça. Mais oui, bah, c'est une discussion qu'on pourrait avoir pendant des heures. Je me permets de revenir sur Hibou, parce qu'on en a un petit peu parlé, mais pas beaucoup, et je trouve que c'est assez génial ce que tu fais avec cette association. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots encore ?
Ouais. Hibou, c'est une association qui fait des expéditions dans la nature pour sensibiliser aux questions écologiques et sociales. Donc, très concrètement, on emmène 10 aventuriers en expédition pendant 2 ou 3 jours. Dans la nature, donc c'est pas forcément en plein milieu de la Haute-Savoie, hein, en général. Là, pour l'instant, on fait des expéditions surtout en Île-de-France. Donc dans les forêts d'Île-de-France, accessibles en transport en commun. Et pendant ces 2 jours, on marche et on fait des ateliers sur, par exemple, l'empreinte carbone, sur les questions d'alimentation durable, mais aussi sur des questions plus sociales comme les droits des femmes ou les questions d'inégalité économique. Pour essayer de mixer en fait pas mal de questions écologiques et sociales qui sont assez prégnantes en ce moment. Et surtout, la méthodologie qu'on a développée, c'est une méthodologie de facilitation et d'accompagnement qui permet à chacune et chacun d'avancer du point où il en est jusqu'au point où il veut aller. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas des compétences acquises, c'est vraiment plus une facilitation pour que chacune et chacun puisse avancer sur ses questionnements. Tout ça en se reconnectant avec la nature. En fait, on a fondé cette association avec un ami parce que on était beaucoup, tous les deux, on aime beaucoup l'outdoor, on fait beaucoup de rando, de sport d'extérieur. Et en parallèle, c'est quelqu'un qui a aussi fait le programme Associate and Purpose, qui est très développement personnel. Et on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de... Enfin, il y avait des propositions, en tout cas, pour avancer sur ces questionnements-là, mais en salle, à Paris, dans des bureaux. Et nous, ça nous paraissait assez... intuitif de se dire, moi, quand je réfléchis à mon empreinte carbone ou aux questions des inégalités, j'ai envie de le faire en me connectant à la nature, j'ai envie de le faire dehors, j'ai envie de le faire en écoutant respirer la forêt, parce que les deux sont hyper liés et on n'a pas trouvé d'organisation qui faisait ça. Donc, tout simplement, on l'a créé. Et on a lancé Hibou en 2019. On a commencé à faire les premières expéditions début 2020. On a dû un petit peu suspendre nos activités pendant le confinement. Mais en tout cas, ce qu'on voit pour l'instant, puisqu'on a déjà fait plusieurs expéditions, c'est que les personnes qui partent en expédition hibou, ce qu'elles nous disent souvent, c'est que enfin elles trouvent un lieu, un espace pour discuter, par exemple, de son rapport à l'écologie, de son rapport à l'action, à des questions sociales, etc., sans jugement, de façon très ouverte. On essaie de faire des groupes qui soient assez divers, justement pour pas qu'il y ait un niveau attendu, que ce soit en termes physiques, de marche, ou en termes d'action. On a des personnes qui sont pas du tout ou très peu sensibilisées à l'écologie, on en a d'autres qui sont déjà des woofers convertis, qui vivent dans des fermes agroécologiques. Donc c'est très intéressant d'avoir cette diversité dans les expéditions, parce que justement ça permet à chacune et chacun d'avancer collectivement. En fait, notre parti pris, c'est de se dire tout seul dans ton coin, tu restes là sur ton canapé en te disant faudrait peut-être que je fasse mon bilan carbone, mais en fait tu sais pas comment faire, et puis t'es un peu dépassé, quoi. Tu sais pas trop par quel bout prendre les questions. Alors que en discutant avec d'autres personnes qui sont dans des mêmes questionnements, ne serait-ce que ça, déjà ça permet d'avancer. Et durant les expéditions, on travaille vraiment avec la nature, avec des choses très concrètes. On met les mains dans le, pas dans le cambouis justement, on met les mains dans l'humus. Et ça permet de déclencher pas mal de choses. C'est assez intéressant ce qui se passe durant les expéditions.
Bon, en tout cas, moi, je suis pas en France pour l'instant, mais j'ai très très envie de venir faire une expédition quand je serai de retour.
Ben avec grand plaisir. Pour l'instant, on travaille qu'en Île-de-France parce qu'on est assez petit et on essaie de se développer, mais je pense que l'année prochaine, il y en aura dans d'autres régions de France.
On en arrive pas très loin de la fin de l'émission et je voulais te poser deux questions. La première, c'est comment est-ce que tu perçois l'avenir, au sens où quels sont les projets que tu as à venir, que ce soit lié avec ce que tu fais aujourd'hui ou non. Et la seconde, qui est plus si tu as un message ou des conseils à donner à ceux qui se posent des questions, que ce soit des étudiants ou des gens qui sont en poste, qui ont été un petit peu comme toi avant et qui voudraient passer à l'action, mais qui hésitent ou enfin qui ont peur.
Alors, pour répondre à ta première question, comment je perçois l'avenir ? Elle n'est pas facile comme question. Mais justement, si je peux y répondre de façon… la façon dont je perçois l'avenir, elle est très sereine. Parce que justement, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, j'ai plus l'impression que je dois le prévoir, l'anticiper… et me contraindre à quelque chose. J'ai plutôt l'impression que j'ai les outils en main pour être dedans. J'ai une métaphore qui me vient en tête. C'est la métaphore de la vague. J'ai plutôt l'impression d'avoir la bonne planche pour surfer la vague. Et j'ai pas l'impression d'avoir à contrer la vague ou à deviner où elle va aller, ou à prédire quelque chose, grâce à notamment à pas mal de lectures, notamment grâce au programme On Purpose et au chemin que j'ai fait depuis quelques années. Voilà, j'ai l'impression d'avoir les outils et du coup la planche qui me permet de surfer la vague. Donc, peu importe en fait qu'est-ce qui va se passer, où l'avenir va m'emmener, je suis assez sereine sur moi, ce que je veux faire. J'ai envie de continuer à avoir un impact écologique, environnemental et sociétal fort, et d'avoir des missions professionnelles rémunérés ou non rémunérés qui me permettent de mettre mon énergie au service de cet impact-là. Et je sais que je trouverai les bonnes solutions et les bonnes personnes pour continuer à avoir cet impact-là, parce que c'est ça que je veux faire dans ma vie. Et j'ai pas envie de dire dans ma vie professionnelle, c'est ça que je veux faire dans ma vie tout court. Donc ça, c'est un petit peu ma vision de l'avenir. Et si j'avais un conseil à donner à des personnes qui se posent des questions, c'est de les poser. C'est-à-dire de ne pas rester tout seul dans son coin. Si vous vous posez des questions, c'est qu'il y a d'autres personnes qui s'en posent. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé mon cheminement. J'ai bossé un petit peu aussi avec Make Sense pour qui fait des apéros. Ils font des apéros pour discuter de questions assez variées. Et ne serait-ce que se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui se posent les mêmes questions, waouh, c'est hyper soulageant. Ça permet de pas se dire qu'on est tout seul, mais en fait qu'il y a plein de personnes qui se posent les mêmes questions et il y a plein de personnes qui auront des réponses différentes, parce que chacune et chacun a une réponse qui lui correspond à un instant T. Donc mon conseil, ce serait de discuter avec des personnes qui se posent des questions. Aujourd'hui, il y a plein de ressources, que ce soit en physique, mais aussi en ligne, des forums, des ressources qui sont possibles pour être en contact avec d'autres personnes, des programmes d'accompagnement, il y en a plein. En tout cas, de faire quelque chose, de ne pas rester tout seul. Ça, c'est vraiment mon conseil numéro un. Et si j'avais un conseil numéro deux, c'est là, pour le coup, un peu plus ce que moi j'ai appris de ma transition professionnelle, c'est de peut-être pas attendre le Graal, mais plutôt d'essayer de mettre des pavés sur une voie au fur et à mesure qu'on avance.
Que le chemin n'arrivera jamais tout tracé, mais que la route se construit, ouais, petit à petit.
C'est exactement ça.
Ah, Élise, je te remercie beaucoup pour cette discussion passionnante. Et puis, je te souhaite bon courage pour la reprise des activités avec Hibou et les autres. Et je te dis à très bientôt.
Merci à toi pour cette discussion effectivement passionnante. Merci aussi pour ton podcast, parce que moi, quand j'ai commencé à me poser des questions, c'est en écoutant des podcasts que j'ai commencé à comprendre que j'étais pas seule, et ça m'a beaucoup aidée. Et je pense que vraiment pouvoir entendre des parcours différents, ça c'est très très utile, et donc merci pour le travail que tu fais.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, osez !